Bonjour à tous, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Cette semaine, on poursuit notre quête des différences intergénérationnelles qu'on a démarré il y a quelques semaines avec Stéphane Simard qui nous parlait des générations dans le monde du travail. On reçoit donc Carole Alain pour son livre « Le choc des générations » qui a vraiment là des propos très, très instructifs sur ces fameuses différences et dans plusieurs domaines. En deuxième bloc, on réfléchit également au phénomène « do it yourself », donc « fais-le toi-même », et qui est rendu maintenant quasi une mode, un loisir, avoir un peu toutes ces plateformes comme Pinterest qui nous permet de faire un paquet de créations artistiques là, à l'aide de modèles. Et j'avais envie d'en discuter avec Valérie Harvey, qui est sociologue, pour réfléchir un peu à « maintenant c'est rendu un loisir, mais autrefois, on le faisait soi-même pour des raisons économiques ». Donc, comment le faire soi-même a-t-il évolué au fil du temps? Au cours de cette émission, on vous offre également un spécial 100% à disque. Vous savez, dimanche dernier, c'était le gala de la disque et il y a eu des artistes qu'on a découverts et d'autres qui sont nos artistes chouchous. Et à quelques semaines là, de Noël, on entend de plus en plus dans les réseaux sociaux des messages importants d'encourager les artistes locaux, d'encourager les petites boutiques locales. Donc, j'avais envie de vous faire une petite sélection musicale qui encourage les artistes et artisans d'ici. Parlant de lien avec l'économie, ben, il y a eu évidemment là les élections américaines et on ne sait pas encore quels seront les impacts sur notre économie. Donc après les événements électoraux que l'on a connus, je vous offre une chanson des Cowboys fringants qui ont triomphé justement au gala de la disque, « L'Amérique pleure ».
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil, j'tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, et demain soir j't'aime mon manie. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent fumer tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute.
que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille.
La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur.
L'Amérique pleure des cow-boys fringants. Quel texte fort! Je ne sais pas vous, mais moi, en écoutant ça, il y a plusieurs prises de conscience qui montent à la surface. Notre premier invité a au fil du temps cette semaine, Carole Alain. J'ai vu Carole plusieurs fois en conférence et il se distingue par son humour incisif qu'ont pu apprécier des milliers de gens, autant au Canada qu'en Europe. Et Carole Alain, il est reconnu pour le regard unique qu'il porte sur ses contemporains. Dans cet ouvrage, il le tourne vers les générations, ou plutôt, j'aurais envie de dire, le choc des générations, qui est d'ailleurs le titre de son livre aux éditions Château d'Ancre. Bonjour, Carole.
Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est bien présenté, tout à fait. Merci.
on a eu l'occasion de se côtoyer oui. il y a un certain temps dans le cadre de l'agence Formatou.
Ah oui, tout à fait.
Donc, je suis.
Encore.
Oui, mais je suis familière avec votre style vraiment unique.
Oui, merci.
Et ce livre-là, ce qui m'a fascinée, parce que c'est un sujet qui est souvent abordé, évidemment, quelque chose que j'ai envie de vous entendre parler sur votre tableau comparatif des générations. Pourriez-vous nous résumer, si c'est possible, en deux mots porteurs pour chaque génération?
Oui. Bon, mais écoutez, évidemment, là, vous avez la 10e édition hein, du livre. Hein? Il reste que ça fait 22 ans, là, qui refait à peu près les deux ans, hein, l'édition, parce que évidemment, ça évolue, les générations, puis ça aurait été peut-être même différent de vous donner ces deux mots-là pour chacune des générations de quelques années passées. Bon, moi, j'ai commencé à faire le travail sur les générations au tournant des années 80. Alors, ça remonte quand même loin, là. J'avais écrit à l'époque, d'ailleurs, L'Enfant Roi, qui avait été, là, assez marquant aussi, là, les gens étaient en se disant, mon Dieu, pourquoi? Parce que moi, mon travail portait, mes recherches à l'université portaient sur l'arrivée en Occident de l'enfant unique, si on veut, là, dans les familles. Il fallait commencer à se poser des questions, à savoir, que va-t-il advenir de la situation, aussi bien dans les familles, dans la société, dans le monde du travail, etc. Alors, évidemment, comme là, comme il s'agissait beaucoup des milléniaux à l'époque, la génération Y, là, qui sont nés au tournant des années 80 et des années 90. Et par la suite, il fallait acheter un petit coup d'œil, puisque moi, je voulais intervenir ailleurs, là, dont la Suisse, en France également, et ailleurs, là, dans d'autres pays. Alors là, je devais acheter un regard sur l'ensemble des générations. Donc, ce qui peut être démarquant pour chacune d'entre elles, la génération silencieuse, qui est née entre 1925 et 1944, dans la littérature, là, la plupart des chercheurs sont d'avis pour dire, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, 1925, 1944. On peut même les parler de 1900, puisque la plupart sont décédés. Une génération beaucoup plus longue, les générations arrivent suite à des changements, au rythme des changements. Alors évidemment que les changements étaient plus lents à une époque. On l'appelait silencieuse pour peu revendicatrice.
Oui.
Voyez-vous, elle se revendiquait moins en quelque sorte. Et la particularité, c'est que cette génération-là a vécu le sacrifice de manière assez importante. Mm-hmm. La fidélité, évidemment l'engagement, la loyauté, des valeurs qui sont encore aujourd'hui très importantes, mais à l'époque, évidemment, qui ont joué un rôle aussi bien en société que dans les familles. C'était d'ailleurs assez nombreuses. Alors qu'on a eu l'arrivée par la suite de la génération des baby-boomers après la guerre.
Oui. Famille nombreuse, donc c'était les enfants.
C'est ça, voilà, 1945, début des années 60. Je voudrais le cliché, c'est plutôt de savoir où on va classer là, les gens qui sont nés entre 61, 65 ou 60, 65. Alors qu'aux États-Unis, on aurait tendance à dire que les gens entre 61, 65 sont beaucoup plus de la génération X que des baby-boomers. Donc, je ne sais pas si ça peut clarifier quelque chose pour les auditeurs. Donc, en âge, approximativement, un baby-boomer en 2020, approximativement là, autour de 59-60 ans et 74-75 ans. Donc, la plupart d'entre eux, là, tout doucement, ils nous quittent vers la retraite. La particularité des baby-boomers, et je les félicite à chaque fois là, que j'en ai l'occasion, c'est qu'ils ont eu un travail important à faire, à améliorer les conditions de travail. Ils ont amélioré beaucoup de choses avec l'aide des syndicats aussi. Les conditions de travail, les avantages sociaux, les salaires, les vacances. C'était des éléments là, qui ont dû faire tourner à plusieurs niveaux pour permettre d'améliorer, si on veut, leur qualité de vie ou les conditions de vie à l'époque. Ils ont eu des enfants qui sont majoritairement la génération Y. Alors là, on va arriver, on va voir tantôt là, qu'ils sont moins nombreux, là, cette génération-là. Et la génération baby-boomer est particulièrement autour de la révolution industrielle. Alors, ce qui fait qu'on retrouvait beaucoup la particularité des baby-boomers, c'est qu'on ne se disait pas ce que je dois devenir un avocat aujourd'hui, médecin demain. Et on acceptait à peu près tout type de travail à l'époque. Donc, on valorisait autant les travailleurs manuels, si on veut, que ceux qui avaient des emplois, là, peut-être plus intellectuels, là.
Et il y a les X qui forment ma génération à moi.
Oui, mais là, les X vont suivre au tournant des années 60, la génération X qui va arriver particulièrement à la révolution des services, les tours à bureaux, etc. Les gens et l'importance aussi de la femme dans le travail, donc la particularité de la génération X. On les appelait X pour sens d'identité. C'était pas facile de prendre sa place, la génération X, parce que les baby-boomers étaient nombreux. Puis, bon, il restait au travail pendant 30 ou 40 ans, alors il se déplaçait, vous savez. Alors, il fallait attendre son tour, si on veut. Les universités ont vu arriver de manière assez importante, là. Hein, il y a près de 70 % des baccalauréats, des gens de l'université relèvent la génération X. Mm-hmm. Alors, cette génération-là a été marquante, puisqu'elle a commencé à nous amener l'importance de commencer à réfléchir sur la conciliation famille-travail, la qualité de vie. Alors là, on voit arriver la femme qui nous apporte un élément extrêmement important, qui est communication, l'expression. Les revendications se mettent à bourdonner au niveau des émotions, de ce qu'on ressent, etc. Ça va amener quelque chose d'assez extraordinaire, si on veut.
Et les Y les actualisent tout ça, là?
Oui, les Y, c'est comme les générations contribuent aux générations.
Mm-hmm, exact.
Alors là, arrivent les milléniaux, on les appelait Y pour la génération Y en anglais. On voit arriver la génération des pourquoi. Pourquoi je dois faire ceci? Pourquoi dois-je faire cela? Alors là, on commence à questionner, on revendique encore, et beaucoup plus tôt aussi. Les milléniaux sont nés au début des années 80, 79-80, on va arriver cette génération, plus ou moins de deux enfants par femme aussi, qu'on retrouve aussi bien... dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs, là, sauf peut-être l'Afrique, l'Inde. Mais là, on fallait commencer à se poser des questions, parce que cette génération-là va en venir quelque chose d'assez rafraîchissant. Là, on voit arriver une génération qui se démarque par la mobilité, voyez-vous, et la recherche de flexibilité, très instable aussi. Donc, on voit arriver de l'instabilité, contrairement aux premières générations qui recherchaient plus de stabilité. moi, vous savez, c'était quand même assez lourd, les baby boomers, de voir arriver les changements là, qui sont arrivés dans les 15-20 dernières années. Alors, cette génération-là, ouverte au changement, ouverte à la diversité, c'est une génération qui amène quelque chose d'assez extraordinaire.
Et là, on a les connectés C, hein? Connectés...
les connectés C, les C pour les connecter, communiquer, collaborer, là, créer. Plus ou moins les 4 C, si on veut, de la génération C. C'est un peu à mi-chemin entre une partie des milléniaux et la génération Z qui suit. Donc, pour la génération X en âge, il y a approximativement autour de 40 ans. Vous savez, 40, 42 ans, dépendant, on se retrouve là. Et autour de 58, 59 ans. Oui. Et la génération des milléniaux, autour de 25, 40 ans. Plus vous avancez que plus les générations sont courtes.
Oui.
Parce que les changements sont beaucoup plus rapides.
Accentués, oui.
Alors, les milléniaux sont là, arrivent dans la révolution numérique. Au début, évidemment, ils ne sont pas les natifs numériques, là, mm-hmm. comme la génération Z. Ils ne sont pas nés avec le numérique. Mais la génération Z, qu'on peut aussi qualifier de zapping, là, on appelle aussi la génération Z la génération émos pour émotive, une génération dont les émotions sont bien en selle, si on veut. Donc là, eux et les parents, c'est la génération X qui sont majoritairement les parents de cette génération-là.
Exact. J'ai des spécimens comme ça à la maison.
Oui, c'est les Z qui sont la génération qu'on appelle hyper protégée. Ça va emmener un plus et un moins en même temps. Là, on voit arriver des parents qui protègent cette génération-là et qui se servent beaucoup de la séduction, mot que j'ai amené tout doucement. Mm-hmm. Vous savez, là, on voit arriver là où on commence à mettre en garde l'éducation qui était définie à l'époque par la discipline, l'autorité, les contraintes, limites, règles. Ces cinq éléments-là sont de moins en moins acheteurs, si on veut, là, façon de. Et là, on voit arriver des jeunes qui prennent position, ce qui est formidable, ça avait été amorcé avec les Y. Mais évidemment que les enseignants qui les reçoivent en classe, ça représente un défi de taille.
On a d'ailleurs eu un professeur qui nous parlait de ça il y a quelques semaines.
Voilà.
Carole, je vous propose qu'on écoute une pièce musicale justement d'une oui. jeune génération. Ellie Rose, prix découverte de l'année pour sa chanson Carousel. Et j'aimerais vous entendre après la pièce musicale sur la société de l'œil.
Ah oui, voilà. Merci.
On écoute ça.
Thank you. tu fais ce qui est vrai. Oh, combler la distance entre ce que tu dis et ce que tu fais.
C'était Carousel d'Eli Rose, gagnante du prix Découverte de l'année au Gala de la Disque. Carole, on est de retour avec vous. Carole oui, Alain, auteure oui, du Choc des générations. Ces jeunes générations-là, elles sont dans ce fameux société de l'œil, vraiment à fond.
Voilà. Effectivement.
Donc, qu'est-ce que c'est?
Voir, il y a deux phénomènes particuliers. Là. On fait face à... Les premières générations vivaient le long-termisme. Les choses étaient longues à se produire. Ça prenait du temps. Là, on va arriver le court-termisme. Depuis, bon, une trentaine d'années, hein, tout doit être court et rapide. Donc, que ce soit un élève dans une classe, que tout doit se faire rapidement. Voyez-vous, alors ça, la société de l'œil, autrefois, on était dans la société de l'oreille. Il fallait écouter, il fallait entendre le message. Aujourd'hui, il faut voir le message. Alors, on se sert plus, donc, l'attention, la concentration pour une personne en l'ère postmodernisme actuel est plus compliquée. Les nouvelles générations sont moins portées à écouter. Ils peuvent écouter ce qui leur plaise, que ce soit de la musique, mais moindrement, mais ils peuvent faire 3-4 actions en même temps. L'œil est beaucoup plus alerte, si on veut, que l'oreille. Alors, évidemment, qu'en classe, lorsqu'on est en interaction avec eux, il faut en tenir compte, en quelque sorte. Et il y a la notion du court terme, court-termiste, là, qui prend une place de plus en plus importante. Il n'y a pas une entreprise... quel que soit le monde dans lequel on vit, qui ne doit pas en tenir compte maintenant. Rien ne peut être fait de long. Aujourd'hui, on questionne le primaire, secondaire, cégep, université. Est-ce que c'est trop long? Vous savez, on peut questionner les jeunes. Je ne serais pas surpris que c'est déjà, d'ailleurs, on se pose déjà la question. Les jeunes se disent, mon Dieu, que c'est long. Vous voyez, donc, tous ces parcours-là, donc, c'est quand même assez fascinant en même temps. Donc, l'œil... l'oreille. Alors, on était des années à s'asseoir à la table à écouter. Hein. Aujourd'hui...
Ben, il y a aussi l'œil sur nous. Et quand justement, et voilà. J'entendais la société de l'œil, j'ai spontanément pensé à Les Servantes écarlates de Margaret Atwood, où je pense que spontanément, dit je te vois, ou non, ça, c'est dans Avatar.
Non, la particularité maintenant, les nouvelles générations, c'est comment composer avec le regard de l'autre.
Constant.
Et c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs un livre aussi sur l'estime de soi, là, qui est un petit peu comment composer avec le regard de l'autre porté sur soi. C'est majeur. Un jeune aujourd'hui doit composer. Ça fait partie sûrement aussi des raisons pourquoi ils sont beaucoup plus anxieux. Il faut continuellement plaire à quelqu'un ou plaire à l'autre ou plaire à celui qui nous regarde. Alors, comment on doit composer avec le regard qui est porté sur nous? T'sais? Donc, l'estime de soi en fait partie aussi en quelque sorte. Autrefois, les premières générations n'avaient pas à composer de manière aussi alerte à cette réalité. Aujourd'hui, un jeune qui se lève debout, qui va à l'école ou dans un environnement donné ou qui se présente sur un écran de verre, tout de suite, il doit tenir compte de cette réalité. On le regarde, il s'expose à quelque chose. Hein. Donc, et on le juge aussi, malheureusement, parfois maladroitement aussi. Donc, un jeune arrive à 14, à 15, à 16 ans, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire à mon apparence? Là, on voit que les apparences sont assez lourdes parfois aussi. C'est beaucoup plus lourd que ce l'était à une époque, en quelque sorte.
Ben, j'ai un fils de 17 ans qui vit ça, puis on a déjà eu la discussion. Je lui disais, à mon époque, par exemple, parce qu'il y avait un ami qui souffre d'intimidation dernièrement, je dis, nous, on avait, le soir, on arrivait chez nous, on avait quand même la paix un peu. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de se connecter sur les réseaux sociaux, mais il reste que c'est au cœur de leur vie.
Oui, c'est au cœur de leur vie, mais là, on voit de plus en plus que même la génération X s'expose beaucoup dans les réseaux, que ce soit à l'intérieur de Facebook. On voit que les réseaux sociaux prennent une place considérable pour au moins trois générations là maintenant. Alors, les baby-boomers, bon, en partie, Mais la génération X aussi, vous savez, l'adolescence, elle s'installe doucement dans la société occidentale.
Oui.
Elle prend une place. Devenir adulte est devenu compliqué pour une nouvelle génération. Vous savez que l'adolescence, maintenant, se termine autour de 24-25 ans. Et
oui, alors qu'avant,
On voulait être un adulte à 16 ans. Là.
Carole...
Avant, on voulait avoir de la barbe. On voulait être très jeune.
Ah, mon fils en veut, là. Mon fils en veut, il a 17 ans, il a hâte d'avoir une barbe.
Oui, il en veut d'avoir une barbe.
Dites-moi, une dernière question, il nous reste un 2 minutes ensemble. Oui. Ça, c'est une grosse question, mais si on essaie de résumer quelque chose, vous dites les valeurs de l'entreprise sont passées de masculine verticale à féminine horizontale.
Et voilà.
Pouvez-vous expliquer?
Oui, oui. Bon, ça, c'est mon travail principal en ce moment en Europe, moi. Mm-hmm. C'est qu'il faut que j'amène de plus en plus les managers, les sociétés, les entreprises à bien comprendre le virage de verticalité à la transversalité, horizontalité. Donc, d'ailleurs, des valeurs importantes que la femme nous amène de plus en plus dans le travail.
Donc, les soft skills, là, tout ce qui est intelligence émotionnelle, d'être plus à l'écoute.
Vous savez, tout ça, tous ces éléments de s'exprimer, de dire les choses, de sensibilité, d'émotivité, prennent une place de plus en plus importante dans les organisations. Et d'ailleurs, qui va continuer aussi à prendre de l'importance au fil des années à venir. Il y a toujours place à la verticalité, hein, les processus, la structure, l'organisation, planification, résultats, performance. Mais on a besoin de collaboration. C'est transversal, la collaboration.
Absolument.
On a besoin de réseautage. C'est transversal. Voyez-vous, mais la femme amène un éclairage très important dans ce rôle-là. Elle aime rester en relation d'eux et de dire. La femme nous amène quelque chose de très floral sur des mots pour le dire.
Absolument. Et Carole, ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est un sujet extrêmement riche et je pense que vous faites un lien qui est extrêmement pertinent parce qu'effectivement, si les employés s'expriment plus, veulent recevoir plus de rétroaction, ben ça veut dire que les managers doivent être plus à l'écoute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci de l'invitation, ce fut un plaisir.
Au plaisir.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Notre invitée du deuxième bloc est Valérie Harvey, autrice sociologue, pour nous parler du « Do it yourself », »,« Faites-le vous-même », donc une chanson bien de circonstance, « Homme autonome » de Damien Robitaille.
Sans assistance, un enfant qui vit dans l'indépendance. Pour grandir, je m'étirais en me retirant. Et comme ça, je suis devenu un grand. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Ooh, yeah. Héréditaire, ma famille c'est une bande solitaire. Depuis plus de 5 générations, nous n'avons eu aucune réunion. Je fais tout, tout seul. Autodidacte, les
changer, tout comme mon téléphone. Mon doigt est brisé, jamais il ne sonne. Je fais tout, tout seul.
Autonome de Damien Robitaille. Alors, il en fait des choses tout seul, Damien. Quel beau thème pour introduire notre sujet, le « do it yourself », on le fait soi-même, et je reçois donc l'autrice, sociologue, collaboratrice à l'émission « Ça prend un village » Radio-Canada. C'est une passionnée du Japon également, et on l'a entendue au fil du temps à notre épisode du 13 octobre, et moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Valérie Harvey. Bonjour!
Bonjour, bonjour!
Alors, qu'est-ce que ce phénomène-là du « do it yourself »
Ben en fait, on appelait ça « faire à la main », hein? C'est dans l'ancien temps, on n'avait pas le terme « do it yourself », ça c'est un petit peu la façon de le rendre « in » aujourd'hui. Mm-hmm. Mais moi, j'aime beaucoup l'automne parce que tous les automnes, je me souviens de ma grand-mère, mes parents partaient toujours en congrès en automne, puis j'allais donc habiter quelques jours chez elle. Mm-hmm. Ça sentait bon l'automne, hein? C'est la saison des canages. Elle faisait du ketchup aux fruits, du ketchup aux tomates vertes. Écoute, elle était toujours, toujours dans la cuisine. Ça sentait, là, c'était des odeurs qui aujourd'hui restent. On sait que les odeurs, c'est quelque chose qui reste longtemps quand on est un enfant. Donc, quand je me compare avec ma grand-mère qui faisait tout ça, qui faisait tout à la main, qui savait faire de la couture, je me dis, mon Dieu Seigneur, qu'on ne sait plus rien faire aujourd'hui.
Ben, si Ricardo nous dit pas comment faire...
Ouais, c'est ça, on va voir Ricardo, mais encore, c'est pas pire, maintenant on a Ricardo, mais ouais, c'est côté cuisine, côté couture, tu sais, il y a même des grands-mères qui faisaient eux-mêmes leur savon, là. Donc il y avait pas d'épicerie qui importait les légumes des États-Unis pour qu'on ait des choses tout l'hiver, donc c'est ça qu'il fallait penser à faire des conserves, puis il y avait des caves à patates aussi, hein, pour entreposer des légumes racines. Mes grands-pères aussi, il y avait beaucoup de travail, hein, il fallait qu'ils installent des barrières, il fallait qu'ils changent les fenêtres d'hiver, moi je me souviens de ça pendant un bout de temps, on l'a fait chez nous aussi quand j'étais petite, il fallait tu sais, quand on avait la famille qui s'élargissait, là, l'arrivée de jumeaux, puis qu'il fallait construire une nouvelle chambre, bien, l'extension, on la construisait. On faisait venir la famille élargie, puis une fin de semaine, puis c'était fait.
Une œuvre collective.
Une œuvre collective, puis on faisait même son propre alcool.
Ah oui, hein, de l'alcool de patate et autres.
Ah oui, exactement. On a toutes des histoires à propos de tout ça. Mais ça, justement, le point sur l'alcool, ça m'amène à la petite nuance qu'il faut donner. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste des avantages à faire soi-même des affaires. L'alcool folâtré, ça a quand même tué beaucoup de monde dans les campagnes. C'est pour ça qu'on a fini par interdire d'en fabriquer. Le gouvernement a mis des lois, là, puis c'était rendu interdit d'en faire. Puis c'est la même affaire avec les remèdes de grand-mère. Hein. On se soignait à la maison parce que ça coûtait cher faire venir un médecin. Puis on avait beaucoup d'enfants, donc beaucoup de petits problèmes, parce qu'aujourd'hui, on en a deux, puis on sait ce que ça veut dire. Donc, quand t'en avais 10, t'avais une diversité de choses à traiter, je dirais. Donc, on avait des choses qui, effectivement, ont fait leur preuve encore aujourd'hui. Le clou de girofle, on l'emploie, hein, le gingembre, le vinaigre pour toutes sortes de petites choses, donc c'est encore utile. Mais il n'y avait pas juste des bons remèdes. J'ai trouvé des choses que c'était un petit peu
questionnable. Racontez!
Oui, hein, donc, la sève de vigne, c'était pour traiter les affections des yeux. Bon, ça, c'était plus superstitieux, mais au moins, ça faisait pas de mal. Mais on avait de la fécule de maïs pour traiter les fesses irritées de bébés. ça pouvait augmenter l'irritation. Donc, vraiment, pas à conseiller. Puis, j'ai même lu dans le journal La Presse qui conseillait de traiter une brûlure en l'exposant à l'ardeur du feu quelques instants.
Ah, quand même! On est quasiment proche des saignées, là!
Ouais, ça s'appelle traiter le feu par le feu. Mon père disait, si t'as mal, t'as fait une petite brûlure sur le doigt, je vais te piler sur le pied, tu vas voir, ça va te passer. Bon,
tu vas avoir mal pour quelque chose.
Non, mais parce qu'il voulait, ça voulait dire changer le mal de place. Ouais. Mais disons que les remèdes de grand-mère sont, ou toutes les affaires qu'on faisait soi-même sont devenues un petit peu plus difficiles quand on a eu des systèmes d'égouts partout dans les villes, mm-hmm. quand on s'est mis à avoir l'électricité dans la maison. C'est pas tout le monde qui est un électricien, puis c'est pas tout le monde qui est capable d'être un plombier. Donc là, la salubrité puis la sécurité de ces affaires-là un petit peu plus complexes sont devenues, c'est devenu important de déléguer à ceux qui avaient ces compétences-là. Donc ça a commencé un peu comme ça, la perte de l'autonomie, si on veut, mais aussi le fait que faire la cuisine, faire la couture, ça prend du temps. Puis, on a moins ce temps-là, maintenant que les enfants vont à l'école longtemps. Hein, souvent, les filles plus âgées pouvaient aider dans la maison, pouvaient aider à la cuisine. Maintenant, c'est moins le cas. Les garçons étaient à la campagne, puis ils aidaient au champ, ils aidaient à faire les récoltes. Tu sais, on sortait les enfants de l'école pour cette période de temps-là. Mais quand on s'est mis à avoir des enfants qui fréquentent l'école plus longtemps, avoir des familles plus petites et des femmes qui travaillent, bien là, des enfants qui n'ont jamais appris à cuisiner, ça s'est mis à exister. Des adultes qui n'ont jamais appris à rapiécer un bras de trouée aussi. Donc, on a cette idée-là qu'aujourd'hui, on est moins autonome qu'avant. Mais je dirais qu'il faut aussi nuancer cet aspect-là parce qu'on est très autonome, mais dans d'autres champs. Par exemple, les gens ont inventé des emplois. Hein? Je sais pas, mais moi, je te parle de ma chambre en ce moment, c'est-à-dire que je peux faire de la radio, et je le savais le faire avant la pandémie, là, à partir de mon ordinateur. Donc, je suis très, très habile avec les multiples logiciels, puis ben, j'aide mes parents à le devenir. Donc, tu sais, on voit qu'il y en a qui ont appris à programmer, ils font leurs propres jeux vidéo, ça peut donner des emplois. Il y en a qui publient leurs livres parce qu'ils sont capables de monter tout ça. Ils font de la musique, puis ils enregistrent tout ça aussi. Donc, on a une autre forme d'autonomie, mais elle n'est plus nécessairement dans le champ domestique, si on veut, et pas de la même manière.
En tout cas. Mais en même temps, Valérie, j'aurais tendance à dire, là, avec le confinement qu'on a vécu, il y a eu tout un courant là, vers le retour à une forme d'autonomie et d'indépendance. Exactement. Parce qu'on n'avait pas envie d'être pris, justement, de se sentir...
Oui. Combien de photos de pain maison on a vu passer? Alors non, vraiment, soit les gens ont été forcés de s'y mettre, soit ils ont eu envie de le faire, donc de retrouver cette autonomie-là, de planter leur petit jardin aussi. Je te dirais que c'est une mode qu'on voit, parce que ça a été une mode avant d'être une obligation. Pendant le confinement, c'était plus une obligation presque. Mais depuis une dizaine, quinzaine d'années, justement le DIY, donc do it yourself, fais-le toi-même, est devenu une mode plus in. Donc on a vu apparaître des sites web, des Instagram,
Pinterest, qui est bien rempli d'idées.
Qui nous montre comment faire. Puis ça rejoint aussi un souci écologique, puis de s'éloigner de la consommation.
Absolument.
De passer du temps pour faire des choses, pour y donner de la valeur. Donc, je trouve que c'est une belle façon de récupérer le fait à la main. Puis, ben, j'espère que ça va donner naissance à plein de capacités nouvelles chez la jeune génération.
Bien, c'est merveilleux. Et de votre côté, qu'est-ce que vous faites à la main?
Moi, je suis surtout la personne plus côté informatique. J'ai monté des livres aussi moi-même, des choses comme ça. J'ai fait de la musique aussi. Mon chum et moi, on a fait la chanson. Mon chum compose, donc on a fait enregistrer nos propres musiques. Puis je te dirais que dernièrement, à cause de la pandémie, mon chum s'est même mis à la plomberie. Donc, il a changé un robinet de lavabo. Donc oui, on a développé nos compétences pendant cette pandémie.
J'ai remarqué qu'il y a une association entre le fait main et l'amour. Je vais donner un exemple de ma famille. Souvent, bon, dans les repas familiales, on fait les fameux potlucks. Et je me rappelle une fois avoir apporté quelque chose d'acheté. Et une de mes sœurs m'a dit « Ben, tu t'es pas donné la peine ». Et pour moi, je comprenais pas le lien qu'elle faisait. Puis en creusant, je me suis rendu compte que pour elle, c'était associé à l'amour. Le fait de l'avoir fait à la main, c'était une manière de dire « je t'aime ».
Hey, c'est beau ça. Je pense que c'est vrai de la même manière que je pense que plusieurs personnes l'ont redécouvert cet été en plantant son jardin, en prenant le temps de voir tout ça pousser puis en prenant soin. Il y a une autre saveur à ces légumes-là qui sont peut-être moins chics qu'à l'épicerie, hein, parce que là, acheter tout fait, c'est parfait, c'est bien souvent, mais qui a une valeur de temps. Moi, en tout cas, c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on cultive sur notre balcon avec les enfants, puis je trouve que c'est beau ça, qui aiment particulièrement nos petites tomates qui poussent sur le balcon, parce que ce sont nos petites tomates, parce qu'ils ont arrosé. Puis effectivement, faire les choses soi-même, ça apporte une valeur à soi, à ce que tu as fait pousser, ou ce que tu as cuisiné, ou est-ce que tu as fait de la couture. Hein, donc, ça peut être moins bien fait, mais je te dirais qu'il y a une charge émotive que n'a pas les choses que tu vas acheter à l'épicerie, là, c'est clair.
Mais en même temps, j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui vit pratiquement en autarcie, vraiment dans son monde à lui. Puis je lui disais, moi, je valorise l'expertise. Donc, je me dis, je suis bonne dans ceci, donc je peux faire un troc de talent, mais il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas de talent et je n'ai pas envie d'apprendre, alors je préfère laisser ceux qui ont ce talent-là s'épanouir et moi leur offrir des choses. Et lui,
c'est pour ça que je pense que c'est un entre-deux, que tu as tout à fait raison, qui moi aussi, c'est ma philosophie, c'est-à-dire que tu parlais tantôt du partage. Oui. Ben, si moi, mon talent peut aider... Par exemple, ma famille, je peux leur brancher leur ordinateur, ben ça va me faire plaisir de le faire. Eux, ils sont capables de faire des choses que moi, je suis pas capable, puis que j'ai moins d'intérêt à faire. On peut pas, en tout cas, moi, c'est pas mon intérêt de devenir autosuffisante dans tout. Comme toi, je valorise l'expertise aussi dans plusieurs domaines.
Mais il y a des gens pour qui c'est particulièrement important. Je pense à une très, très grande amie à moi, ma best, comme on dit, qui, elle, a déjà mis 40 heures pour faire une chemise de scout pour son fils, alors que moi, je serais allée l'acheter. Et là, en ce moment, tu parlais de pain. Là, en ce moment, elle essaie de me convertir à sa secte de gens qui font du levain.
Oh,
elle est déçue que je n'embarque pas là, dans tout ça, mais pour moi, j'aimerais avoir cette fibre-là, mais je me dis, bon, ben, du pain, il y en a chez le boulanger, puis il est mieux fait que ce que je ferai jamais.
Oui, puis tu sais, ça ne nous empêche pas d'essayer d'encourager le local, donc d'avoir des gens qu'on connaît, donc partager une compétence, puis acheter quelque chose qui est fait en Chine, bon, ben, c'est différent que d'acheter chez ton boulanger. Moi, j'ai essayé de faire un masque. Hein, les fameux masques, là, les couvre-visages.
Oui.
Bon, j'en ai cousu un à la main, j'ai pas de machine à coudre, fait que j'ai fait ça à la main, quand je couse toujours avec une aiguille, et j'ai trouvé ça long. C'était beaucoup d'efforts. Il est beau, mon masque, là, mon fils le porte, puis il l'aime beaucoup, sauf que je me suis dit, ouais, je vais encourager le local, des gens qui ont une machine à coudre, qui font ça plus vite et mieux que moi. Je suis très satisfaite de ceux que j'achète.
Ben, probablement, effectivement, comme tu le dis, que l'équilibre est entre l'indépendance et l'interdépendance.
Oui, puis on n'est jamais limité. Hein. Si on veut apprendre, on a toujours le temps de le faire. Et je trouve que ça, c'est... Tu vois, cette pandémie nous a permis peut-être, pour certaines personnes, d'apprendre des choses qui n'auraient jamais osé même essayer de faire une baguette maison. Moi, je n'avais pas fait ça encore. Là, j'en fais régulièrement. Je trouve ça beaucoup plus facile que ce que je pensais. Puis tu vois, je m'y mets assez régulièrement. Donc, faire un jardin. Donc, ça nous a permis d'expérimenter. Puis je pense que ça, c'est important de savoir qu'on n'est jamais pris hein, avec ses propres compétences, qu'on peut toujours être dans l'apprentissage.
Excellent. Valérie, ça a été un plaisir de te recevoir à nouveau. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'explorer un nouveau thème prochainement.
Oui, mais ça va me faire plaisir.
Alors, je t'offre Arnaque d'Élisapi Isaac, artiste autochtone de l'année au Gala de la Disque.
Oh, merci.
À bientôt. Arna Wama. Ino se haitara, nallini haitara. Taimatsa ina nuit ina ravio. Sorlo takatote. Pue urta ilgina kipimang arpit. Arna Wama. Sa C'était Arnaque d'Elisapi. Elisapi tout court, me dit un Maurice de l'autre côté du plexiglas. Alors, Elisapi a gagné l'artiste autochtone de l'année au gala de la disque. Et cette chanson, Arnaque, c'est une chanson qu'elle a dédiée à la force de la femme. C'est une chanson qu'elle a écrite parce qu'elle avait besoin, dit-elle, de faire sortir le méchant. En fait, pas le méchant, mais plutôt la force de la femme. Une force que souvent, on va associer... bon, on le sait, on veut que la société veut que l'on soit douce et belle. Et quand on crie, ben à ce moment-là, on devient hystérique. Donc, des choses que l'on refoule. Alors, j'ai beaucoup aimé la vision d'Elisapi sur cette chanson-là, de dire que la femme est porteuse d'une énergie, elle est porteuse d'une force et qu'on doit l'entendre et composer avec. J'ai envie de souligner par ailleurs l'engagement de mon employeur, l'engagement de Boralex envers les Premières Nations. Donc, on s'est associé dernièrement au mouvement Ensemble Inc. pour promouvoir l'engagement de faire connaître davantage la culture amérindienne auprès de nos collaborateurs. Moi, j'ai toujours été fascinée par la culture amérindienne. Je suis allée à un nombre incalculable d'événements, de pow-wow et autres, parce que j'ai beaucoup toujours apprécié leur vision du développement durable, leur vision de la parole, leur vision du travail collectif. Et même, je ne sais pas si vous savez, mais le 2S dans LGBTQ2S vient justement de la culture des Premières Nations. Le 2S signifie « two spirit », donc un esprit féminin et un esprit masculin dans le même corps. Et si vous voulez explorer tout ce sujet-là, dans le film « Hochelaga, terre des âmes » de François Girard, on voit le chaman ou la chamane qui représente cet esprit-là. La prochaine chanson, elle est aussi issue Gala de la Disque. Émile Bilodeau était en nomination pour l'album de l'année Folk. C'est Jean Leloup qui a gagné, un autre que j'aime beaucoup. Mais cette chanson-là s'appelle Candy et c'est un véritable verre d'oreille. Mon ex-conjoint l'avait entendu une première fois et m'avait dit « Tu vas voir, c'est pas pire ce truc-là ». Et puis j'avais écouté un peu distraitement et finalement cette chanson-là m'est restée en boucle sans arrêt. Alors je vous introduis dès maintenant Candy d'Émile Bilodeau.
Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand chose dans vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal, parce que je connais pas grand chose dans vie. Que le rose est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là, je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose dans la vie. À
porte, les chauves-souris ont des cheveux. C'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti?
Candy, can't you see que je suis Candida? Qu'en dis-tu, toi, quand tu me vois pleurer de joie? La vie est vide de sens ici. On ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois.
T'as raison, arrêtons de se prendre la tête. Sortons et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort, fait que ça sert à rien de se faire du tort avec notre Holocène pis le pétrole d'Alberta. Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher. Ici, on a des gars qui auront plus de salaire parce que demain, la shop va fermer. Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné. La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici.
Candy, can't you see que je suis candidat? Qu'en dis-tu, toi, quand tu me vois pleurer de joie? La vie est vide de sens ici. On ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois.
Avec le sort de ma communauté, même si en Ontario, y en ont pas trop trop d'écoles franco. S'excuser de vivre en français, c'est comme demander je peux-tu respirer là s'il vous plaît? Mais jamais nous nous mettrons à genoux. Whatever you tell us to do.
Candy d'Émile Bilodeau, qui n'a pas gagné l'album de l'année folk, mais qui a gagné le prix de l'interprète masculin de l'année. Alors, je suis convaincue que cette petite ritournelle vous restera en tête. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, cette semaine, encore des invités vraiment intéressants. J'espère que vous avez apprécié. En tout temps, vous pouvez aller sur canalem.vuesetvoix.com pour entendre nos autres émissions qui sont également disponibles sur Spotify, Apple Balado et Google Play Music. Merci à nos invités Carole Alain. Son site Internet est carolealain.ca. 2L à Alain. Valérie Harvey, sociologue, son site Internet est nomades.com. Donc, pour nomades et S, nomades.com. Merci à notre incroyable équipe. Louis Garon, chef d'antenne. Maurice Bolduc en régie. Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, une rencontre que j'anticipe avec grand plaisir. Nicole Bordelot pour son livre « Tout passe ». Et mon coiffeur. Oui, j'ai invité mon coiffeur, Francis Tremblay, de Têtu Coiffure, pour nous parler du passage, le passage aux cheveux blancs. Alors, je vous souhaite au moins 7 petits bonheurs pour les 7 prochaines journées. Merci à tous, à très bientôt.